France Culture.
Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France s'apprête à lancer les débats pour une reconnaissance de l'État palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU. Une utopie au vu de la situation à Gaza. Nous serons à New York, mais aussi près de Ramallah. Et puis à la fin de ce journal, le reportage de la rédaction nous emmènera dans la zone E1 près de Jérusalem. C'est là que des colons israéliens tentent de rendre impossible sur le terrain toute idée d'État palestinien indépendant.
Et puis dans l'Arizona, une cérémonie en hommage à Charlie Kirk a rassemblé des dizaines de milliers de partisans trumpistes. Le président républicain en a profité pour exprimer sa haine envers ses adversaires politiques.
En France, enfin, nous reviendrons sur le procès de Gaël Perdriot qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. Le toujours maire de Saint-Étienne est accusé de chantage à la vidéo, mais aussi de détournement de fonds publics. Elle dominera sans aucun doute la grand-messe annuelle de l'ONU, la déclaration française de reconnaissance de l'État de Palestine. Elle aura lieu ce soir à l'occasion d'un sommet qu'organisent la France et l'Arabie Saoudite sur l'avenir de la solution à deux États. Résultat d'un processus de plusieurs mois mené par Paris qui a permis le 10 septembre dernier l'adoption par une écrasante majorité de l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui soutient un futur État palestinien, excluant sans équivoque le mouvement islamiste Hamas, condition exigée par de nombreux pays occidentaux. Mais quand bien même, et au vu du désastre humanitaire en cours à Gaza et des accusations de génocide contre Israël, l'idée de deux États palestiniens et israéliens vivant en paix côte à côte semble pour l'heure utopique. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Culture à New York. Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ou le Portugal qui ont pris les devants hier, ce sera donc aujourd'hui le président français Emmanuel Macron qui va ouvrir les débats.
Oui, c'est une promesse vieille de presque 40 ans qui sera tenue tout à l'heure. Promesse réitérée par tous les présidents depuis Mitterrand. Emmanuel Macron sera donc celui qui franchira le pas. Rendez-vous fixé à 15h, 21h heure de Paris. Quelques mots du président suffiront pour que la reconnaissance de l'État de Palestine soit effective. Reconnaissance très symbolique, les effets concrets comme l'ouverture d'une ambassade ne sont pas pour tout de suite. Et à l'ONU, rien ne changera, même si les trois quarts des États membres reconnaissent déjà l'État de Palestine. Rien ne changera à cause du veto des États-Unis qui, comme Israël, dénonce un cadeau fait aux terroristes du Hamas. Pour Emmanuel Macron, c'est au contraire la condition préalable pour arrêter la guerre et la promesse d'une architecture de sécurité qui assurera la paix entre Israël et ses voisins. Sans État de Palestine, pas de solution à deux États et pas de paix possible. La reconnaissance ouvre un chemin diplomatique alternatif au fracas des armes et au désastre humanitaire à Gaza.
Louise, la feuille de route franco-saoudienne dessine les contours d'un jour d'après très hypothétique.
Oui, sur le papier, le plan de paix est formidable. Cessez-le-feu, libération des otages, reconstruction de Gaza, redéploiement d'une autorité palestinienne réformée. Sauf que Benjamin Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien. Il amplifie la destruction de Gaza, menace d'annexer la Cisjordanie en représailles et se moque de savoir si Israël est isolé. Donald Trump, ensuite, n'est pas prêt à lâcher son allié et son propre plan pour le jour d'après. Son projet de Gaza-Riviera est très éloigné de la feuille de route franco-saoudienne. Enfin, l'autorité palestinienne prend des engagements, mais elle est faible et déconsidérée. Écueil majeur qui hypothèque la victoire diplomatique revendiquée par la France.
Louise Baudet à New York, merci. Côté israélien, on entendait cette reconnaissance irrite au plus haut point le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui non seulement conteste l'initiative, mais accélère son processus de colonisation en Cisjordanie pour tenter de rendre concrètement impossible toute constitution d'un État palestinien. Ce sera l'objet du reportage de la rédaction à la fin de ce journal. Du côté enfin de l'autorité palestinienne, on se félicite de l'initiative française qui vient couronner des années d'efforts déployés par Mahmoud Abbas, notamment le chef de l'autorité palestinienne. Mais désormais, cette autorité est impopulaire en Cisjordanie et en perte de vitesse. Reportage sur place de notre envoyé spécial Étienne Monin avec Éric Audra.
Derrière une longue allée de palmiers à quelques kilomètres de Ramallah, le village de Tour Moussaïa subit l'occupation de plein fouet avec les restrictions de circulation, les attaques de colons et l'absence de l'autorité palestinienne, dit Yasser Al-Kam de la municipalité.
Ici, actuellement, l'autorité palestinienne ne nous aide pas beaucoup. On peut dire qu'on est seul à 90%.
L'autorité palestinienne est aussi très impopulaire. Zayan Aboudaka est cofondateur d'un institut de sondage.
Le parti au pouvoir a été critiqué pour la corruption, pour son système clientéliste, pour favoriser les proches. Et c'est vrai que ça existe.
À cause des restrictions israéliennes, l'autorité palestinienne est en banqueroute et elle n'a pas la main sur la sécurité. Mais surtout, elle manque de projet politique, dit le politologue Aniel Masri.
Nos leaders jusqu'à maintenant ont adopté une stratégie de la survie et de l'attente. Et ça n'a rien apporté. Ça a juste rendu les Palestiniens plus faibles.
Le président Abbas manque aussi de légitimité. Il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis maintenant 20 ans.
Étienne Monin, en France, enfin, plusieurs maires ont maintenu leur intention de faire flotter le drapeau palestinien au fronton de leur hôtel de ville, malgré les mises en garde en fin de semaine dernière de Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur. De premières décisions des tribunaux administratifs ont contraint quelques élus à retirer ce drapeau, parfois déjà mis en place, au nom du principe de neutralité du service public et en raison de risques de troubles à l'ordre public. Et puis, en marge de cette AG de l'ONU, le Conseil de sécurité se réunit également aujourd'hui en urgence à l'appel de l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien. Vendredi, 3 avions de combat russes sont restés pendant 12 minutes dans l'espace aérien, donc au-dessus de l'Estonie, déclenchant protestations de l'OTAN et de l'Union européenne qui y voient une provocation après des incursions déjà dans le ciel polonais. Hier, Donald Trump a assuré que les États-Unis participerait à la défense de la Pologne et des Pays-Baltes si la Russie intensifiait son activité militaire dans la région. Donald Trump, toujours lui, qui n'a pas appelé au calme, mais bien à la violence contre ses rivaux politiques démocrates. Hier, il les a à nouveau accusés, sans preuve, d'avoir motivé l'assassinat de Charlie Kirk. L'influenceur trumpiste était au cœur d'une cérémonie d'hommage à Phoenix, en Arizona, son fief, cérémonie où se sont rassemblés en masse des partisans du président républicain. Isabelle Labéry était pour France Culture à Glendale, Arizona.
Au début, l'hommage ressemble à un service évangélique XXL avec un public en extase qui lève les paumes vers le ciel. God bless you and may the Lord keep you. Amen. Charlie Kirk est célébré comme un héros et un martyr. Puis Erika Kirk apparaît sur scène. That man. Cet homme, dit-elle en évoquant le meurtrier de son mari.
I forgive him.
Je lui pardonne. Un frisson parcourt la foule qui se lève.
I forgive him because it was what Christ did.
Je lui pardonne, ajoute Erika Kirk, parce que c'est ce que le Christ aurait fait et c'est ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine, c'est l'amour, l'amour pour nos ennemis, l'amour pour ceux qui nous persécutent. Mais au fil des heures, le ton devient beaucoup plus virulent contre les opposants idéologiques de Charlie Kirk et de ses alliés trumpistes, Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche.
Vous n'êtes rien, vous êtes la méchanceté, vous êtes la jalousie, vous êtes la haine, vous n'êtes rien. C'est nous qui construisons, c'est nous qui créons, c'est nous qui élevons l'humanité.
Politique et religion se confondent, le vice-président J.D. Vance, un proche de Charlie Kirk.
Il me dirait de prier, j'en suis certain. Il me dirait de revêtir l'armure complète de Dieu et de me remettre au travail.
La machine électorale est en marche. Devant le stade, des bénévoles de Turning Point distribuent des tracts. Ne vous contentez pas de prier pour le changement. Allez voter.
Isabelle Labéry.
7h08 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. On passe à l'actualité en France avec un procès qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. Il concerne le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau.
Accusé de chantage à la vidéo intime avec 3 anciens proches, ils sont accusés d'avoir fait chanter donc le premier adjoint de la mairie, Gilles Artigue, par ailleurs rival politique de Gaël Perdriau, en le filmant à son insu avec un escort boy. L'argent ayant servi à cette sextape serait de l'argent de la ville, d'où des poursuites pour soustraction mais aussi détournement de fonds publics qui pourraient causer au maire son inéligibilité. En attendant, et depuis les premières révélations de Mediapart en 2022, Gaël Perdriau clame son innocence. Il est resté maire de Saint-Étienne. Le reportage dans la préfecture de la Loire de Mathilde Imberti.
Ce sont des voyous, le minimum c'est que le maire soit inéligible, peste une stéphanoise outrée. La ville vit depuis 3 ans au rythme des révélations.
Tout le monde veut le faire partir, mais il ne veut pas partir.
On était choqués, surtout pour la personne qui a été manipulée, on va dire. Hein. Entre collègues, c'est pas beau. Hein.
Une sextape tournée à l'insu d'un premier adjoint et rival politique vaut-elle procès? Pas pour ses fervents admirateurs.
Ça ne regarde pas sa vie.
C'est quelqu'un qui a fait du très bon travail. Moi, je me suis dit, tiens, c'est une affaire en dehors de l'hôtel de ville.
L'opposition, en la personne de la socialiste Isabelle Dumestre, conseillère municipale, réclame justice.
Cette vidéo intime a été réalisée avec, a priori, des moyens publics via 2 subventions, notamment de 20 000 euros chacune à des associations pour réaliser des projets qui n'ont jamais vu le jour. Et donc, à un moment donné, on se demande où est passé cet argent.
Tandis qu'à la mairie, depuis que la victime, Gilles Artigue, a quitté les affaires publiques, celui qui a été propulsé à son poste de premier adjoint, Jean-Pierre Berger, se dit soulagé que le procès débute.
Que tout ce bazar, ça s'arrête. Ça me pourrit la vie depuis 3 ans. Le maire m'a dit qu'il était innocent, il lâche rien, fort de ses certitudes, qui nous a communiqué, et c'est la raison pour laquelle on est toujours avec lui, parce qu'on lui fait confiance et qu'on le croit.
5 jours de procès pour faire toute la lumière sur cette affaire qui rebattra de toute façon les cartes politiques à Saint-Étienne.
Désamiantage, sécurité, complet réaménagement intérieur, c'est ce qui attend à partir d'aujourd'hui. Et pour 5 ans, le centre Pompidou à Paris qui ferme ses portes au public ce lundi, une meilleure protection climatique également qui vise à réduire de 40% la facture énergétique. Bref, un changement complet. L'enveloppe restera la même. En attendant la réouverture en 2030 de la 2e plus grande collection d'art moderne et contemporain au monde, les collections et le personnel de Beaubourg seront redéployés. Les précisions de Pierre Repère.
C'est le dernier jour pour s'imprégner de l'ambiance des gigantesques salles du centre Pompidou. Les expositions permanentes avaient déjà fermé. Il ne restait plus qu'une seule exposition temporaire consacrée à l'artiste allemand Wolfgang Tillmans, qui se terminera donc ce soir. Près de 50 ans après sa construction, Beaubourg, ce gigantesque bâtiment au style industriel, tuyaux colorés et escaliers mécaniques exposés sur les façades, va faire peau neuve. Et il y a du travail, désamianter les façades, traiter la corrosion, refaire les baies vitrées. En plus de la rénovation, il s'agira de trouver comment gagner de l'espace, le bâtiment ne pouvant être agrandi. Le projet est titanesque, 262 millions d'euros pour les rénovations prises en charge par le ministère de la Culture, auquel il faut ajouter les coûts de fonctionnement et de fermeture qui poussent l'addition à près de 360 millions d'euros d'après les calculs de la Cour des comptes. Pendant les 5 années à venir, la plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Europe ne va cependant pas disparaître de la circulation. À travers un programme intitulé Constellation, on la retrouvera en partie au centre Pompidou-Metz, au Grand Palais, ou encore au futur centre Pompidou francilien qui doit ouvrir ses portes à l'automne 2026 à Massy dans l'Essonne. Avant de fermer ses portes, enfin, le centre Pompidou proposera aux visiteurs une dernière rencontre intitulée Because Beaubourg. Ce sera le week-end du 24 et 25 octobre avec de nombreuses installations artistiques et concerts proposés.
7h12 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. On passe au reportage de la rédaction. On va revenir sur la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU aujourd'hui par plusieurs pays.
Et dans ce reportage, nous partons en Israël où évidemment cette reconnaissance fait réagir. L'État hébreu prépare depuis longtemps sa riposte en tentant de rendre impossible sur le terrain cette reconnaissance. Exemple, avec ce projet de colonisation d'une zone de la Cisjordanie qu'aucun gouvernement israélien n'avait depuis plus de 30 ans osé occuper, la zone E. 1. Son occupation a pour objectif d'entraver encore un peu plus la continuité territoriale d'un potentiel État palestinien. C'est le reportage de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Alors pour bien comprendre, il faut d'abord déplier une carte.
C'est en hébreu, mais je vais traduire. Le nord doit être positionné dans ce sens-là. Toute la zone colorée, là, c'est E1.
Et c'est un architecte, un géographe israélien. Il s'appelle Alon Cohen Lifshitz, qui nous a donné rendez-vous au sommet d'une des collines qui entoure la vieille ville de Jérusalem.
De là où nous sommes, on voit au loin la Jordanie et une partie de la mer Morte. Entre Jérusalem et la mer Morte, vous voyez la colonie de Mahale Adumim. Le plan E1, c'est une zone d'habitation qui devrait se situer entre Jérusalem, où nous sommes en ce moment, et cette colonie de Mahale Adumim.
Et en effet, du haut du mont Scopus, au nord-est de la ville trois fois sainte, c'est quasiment toute la zone E1 que l'on surplombe.
L'idée principale, c'est de créer une continuité entre Jérusalem et Mahale Adumim. Le but, c'est de bloquer tous les points de passage pour les Palestiniens entre les deux villes, mais aussi entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Jérusalem-Est va être complètement isolée de la Cisjordanie. C'est une conséquence très importante. Vous ne pouvez pas avoir d'État palestinien sans Jérusalem-Est. C'est une décision politique.
Une décision politique qui a évidemment des conséquences pour les habitants de la zone. 3400 logements doivent être construits sur 12 km², 5000 palestiniens.